بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدنا علما يا كريم, رب زدنا علما يا كريم, رب زدنا علما يا كريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. شافعي الإسلام, nous remercions Allah qui nous donne la possibilité ce soir de nous réunir un instant pour essayer d'apprendre et de connaître les qualités d'Allah Azza wa Jal. Pour rappel, il y a deux semaines, on avait commencé un point important. C'était d'aller à la recherche des actions ou des comportements, soit des a'mal, soit des comportements qui nous permettent d'obtenir la rahmat d'Allah. Parce que dans un premier temps, on avait vu l'étendue de la clémence d'Allah. On avait essayé de comprendre comment est-ce qu'Allah Azza wa Jal aime ses créatures, comment est-ce qu'Allah Azza wa Jal aime les croyants de façon particulière, et comment Allah Rabbul Izza est prêt à pardonner, à accorder, à nous rapprocher de lui malgré nos manquements, malgré nos erreurs. Ça, c'était une première étape, essayer de comprendre, avoir un aperçu de la clémence d'Allah. L'étape suivante, qui est l'aboutissement, c'est de savoir comment obtenir la clémence d'Allah. Parce que très certainement, on se dit que pour obtenir la clémence d'Allah, il suffit de lui demander, de faire dua. Allahumma arhamna, wa Allah, fais-nous bénéficier de ta clémence, de ta miséricorde, sans le moindre doute. Le dua, c'est un intermédiaire essentiel pour obtenir la clémence d'Allah. Mais au-delà des invocations, il y a les actions du quotidien qui nous permettent de bénéficier de la clémence d'Allah. Parce qu'imaginez une personne qui demande régulièrement à Allah d'avoir pitié de lui, mais que lui, dans sa vie de tous les jours, dans ses actions, il n'a aucune compassion pour son prochain. Ou alors, il y a des manquements dans ses bonnes œuvres. Imaginez, cas de figure, 30 minutes tous les soirs, dernier tiers de la nuit, à demander à Allah son pardon, sa clémence, sa miséricorde. Et je fais ma prière de Fajr à la mosquée, mais après, pour diverses raisons, je fais ni Zohar, ni Asr, ni Maghrib, et je reviens pour l'Isha. C'est-à-dire, je rate 3 prières obligatoires par jour. Ou alors, je demande à Allah autant de choses, mais avec ça, je ne paye pas la zakat, je ne paye pas l'aumône par exemple. Ou il y a d'autres manquements de ma vie. Comprenons bien que l'islam, c'est un tout. Il ne suffit pas de lever les mains et de demander. Il faut également que les actions du quotidien, et je dis bien les actions, on dit bien les actions du quotidien, et non pas occasionnellement, uniquement le mois de Ramadan ou autre chose, il faut que les actions du quotidien confortent cette proximité que nous prétendons avoir ou que nous espérons avoir avec Allah Azza wa Jal. Ça ne se limite pas à demander, il faut que les actions suivent. Et donc la dernière fois, On avait vu quelques citations, on s'était plutôt attardé sur des citations des savants de Aqidah qui ont développé la relation qu'il y a entre le fait que le croyant va tout d'abord ya'rifu anna Allah ta'ala rahim, il va connaître le ilm qu'Allah est clément, ensuite il va faire preuve donc de piété, il va rechercher la clémence d'Allah, Allah lui accordera la clairvoyance et il va accomplir un des objectifs essentiels, c'est de développer une soumission totale à Allah. Donc on avait essayé de faire le lien entre ces 3 et 4 points, et avec ça, on a pu voir une ou deux actions. Pour rappel, si je ne me trompe pas, la première action, c'était peut-être l'introduction. La deuxième action qu'on avait vue, c'est ittiba' al-Qur'ani 'ilman wa 'amala. Suivre le Coran, l'étudier et le mettre en application. Ça, c'était la deuxième action. Et la troisième action, j'ai retrouvé la première action, c'est al-ihsan, développer les plus hauts degrés de piété jusqu'à atteindre le ihsan, parce que le mu'min qui pense à Allah en permanence, qui essaie en toutes les situations de sa vie, de se rapprocher d'Allah et de ne jamais s'éloigner d'Allah à cause d'une mauvaise parole, à cause d'un mauvais comportement, à cause de l'abandon d'une bonne action, à cause d'une porte de bénédiction qu'Allah t'ouvre et que tu refermes toi-même, ou une porte de péché que tu t'ouvres toi-même. Donc le croyant qui, en permanence, il reste sur ses gardes, il fait en sorte de ne jamais sortir des limites du halal et du haram, assurément, Allah aura de la pitié pour cette personne. Parce que c'est comme si qu'elle consacre l'essentiel de sa vie, de sa pensée, de sa concentration. Il a une dévotion permanente envers Allah. Tout comme nous devons normalement, qu'Allah nous accorde cette qualité, nous devons normalement développer une dévotion envers notre Seigneur durant nos salats, nos prières. Et la prière dans laquelle il n'y a pas de dévotion, c'est une prière qui est naqisa, une prière dans laquelle il y a des manquements, elle n'est pas complète, elle n'est pas comme il fallait. Mais ce mu'min qui essaie d'atteindre le plus haut degré de foi, le ihsan, cette dévotion que nous devons normalement développer quand on se connecte à Allah par le biais des prières, ben il le vit 24 heures sur 24, une pensée permanente d'Allah. Tout naturellement, cette personne mérite la rahma, la clémence d'Allah Azza wa Jalla. C'était ça la première action, on l'a retrouvée. La deuxième action qu'on avait évoquée la dernière fois, c'est suivre le Coran et le mettre en application. Comme on avait dit, il n'y a pas meilleure façon de se rapprocher d'Allah que par le biais de la parole d'Allah. Si une personne pense qu'il peut devenir pieux sans développer une relation permanente et complète avec le Coran, c'est de l'illusion totale. Si quelqu'un se dit, je peux devenir un croyant pieux, je veux. Et il prétend avancer dans la religion, mais il n'a aucun lien avec la parole d'Allah. Qu'est-ce que ça veut dire un lien avec la parole d'Allah? Ce n'est pas uniquement qu'il récite un juz par cœur ou qu'il connaisse le Coran par cœur. Ça, ce sont de bonnes actions. Quand on parle d'une réelle relation avec le Coran, c'est « ilman wa amala ». Comme le dit le cheikh, « ittiba'u al-Qur'ani ilman wa amala ». Apprentissage, oui, mais l'application. C'est-à-dire que chaque jour, je ne vais pas exagérer en disant chaque jour, mais régulièrement, que nous apprenions un peu plus du Coran. Et ça veut dire quoi, apprendre un peu plus du Coran? Quelqu'un qui connaît le Coran par cœur va dire, j'apprends quoi? Khalas, je mémorise, je suis capable de lire un juz en faisant deux fautes, trois fautes, il se sent au top. C'est tout juste s'il pense, il prétend être min ahlil Coran. La wallah. Le ahlul Coran, c'est pas, certes, mémoriser, c'est un idéal, mais le ahlul Coran, c'est celui qui a une connexion régulière avec le Coran. C'est-à-dire que il faut que le mu'min avance dans sa relation avec le Coran, en étudiant les versets, en lisant la traduction, en lisant Ibn Kathir, en demandant aux savants, en assistant idéalement, s'il y a des durous, des savants qui enseignent le tafsir, ben essayez d'écouter ou télécharger, ou quel que soit le support, mais il faut que jour après jour, on avance dans notre compréhension du Coran, parce que chaque verset, c'est une lumière. Et chaque verset, c'est la parole d'Allah. Et chaque verset bénéficie de la protection d'Allah depuis que il a été révélé, la première révélation, jusqu'à la révélation de ce dunya, parlant du Ibrahim salam, jusqu'au qiyam. Ce Coran, il est « Mahfouz wa inna lahu la hafidhun ». Donc chaque brindi, j'allais dire, c'est respectueux, chaque verset du Coran que je peux intégrer, « ilman wa amala », pas seulement « ilman, je connais par cœur », ainsi non. Et en mettant en application, c'est une lumière que je greffe à ma foi. Et comme mon cœur, mon iman est basé sur le Coran, est basé sur par la suite la parole du prophète alayhi salatu wassalam, c'est un iman qui se rapprochera du iman des sahaba. Et cette foi me permettra de trouver la lumière dans les bonnes œuvres. C'est comme si vous n'avez pas de connexion. Vous êtes dans des endroits, l'exemple un peu décalé, c'est ce qui me passe par la tête, vous êtes dans des endroits où il y a des wifi, il y a plein de possibilités de se connecter, mais vous avez un portable arriéré qui n'a pas de wifi. Vous pouvez passer 2 ou 3 heures, vous n'avez aucune connexion. L'image est un peu décalée, mais comprenez que si on veut accomplir de bonnes œuvres, on passe du temps de les prier, on passe du temps de le former dans de bonnes œuvres, mais si ce cœur ne brûle pas intérieurement par amour pour Allah, ce cœur n'avance pas avec des bases solides, on ne profitera pas des actions. Les actions sont accomplies, oui, mais est-ce qu'on trouve la dévotion? Est-ce qu'on profite de la spiritualité qu'il y a dans chaque action? Non. Et cela transite obligatoirement par un lien avec le Coran. De quoi est-ce qu'on se plaint? On se plaint des fitnas, des sources de mal, des sources de turpitude, de péché. Il y a beaucoup de gens qui se plaignent. Encore qu'un professeur qui nous disait, rapport d'un proviseur de collège, explique comment est-ce que les jeunes musulmans, ils posent énormément de problèmes de discipline. D'accord? D'autres parents qui nous disent que, discuter avec une maman, ils disent très clairement, j'ai tout essayé avec mon fils. Et je l'ai tapé tellement fort que j'ai failli me briser le poignet. Mais cet enfant reste vraiment un phénomène. On a un psychiatre, un docteur, s'il peut nous dire, peut nous aider comment trouver une solution. Mais cette maman dit que maintenant je le laisse. Et elle attend que la phase de l'adolescence peut-être va passer. Elle a espoir de déménager, de quitter Saint-Denis, parce que c'est des quartiers quand même chauds chez nous, Chaudron, pour aller ailleurs. Mais je pense que la solution, ce n'est pas dans le fait de bouger d'un endroit à l'autre. La solution n'est pas de violenter non plus. Je suis persuadé que ça produit l'effet contraire. La solution n'est pas non plus de laisser courir. de laisser l'enfant, on va dire, s'enfoncer hein, dans ces phases rebelles et de développer des comportements qui ne correspondent pas à l'éthique musulmane, mais qui seraient également, qui sont préjudiciables, d'accord? Je pense que si notre prophète alayhi salat wa salam nous a dit que je vous ai laissé deux choses, si vous restez accroché à ces deux choses, lan tadullu. On ne va pas refaire le code de grammaire. Lan, c'est pour la négation du futur. Vous ne serez jamais égaré. C'est le livre d'Allah et la sunna. C'est-à-dire, quelles que soient les époques, les savants disent que même à l'époque de Dajjal, on l'a déjà dit plusieurs fois, mais ça rappelle pour moi-même et pour nous tous. Même à l'époque de Dajjal, quelle est la protection contre l'antéchrist? La lecture de la sourate Al-Kahf. C'est pas le méga tabis XXL, non. Numérique, non. Al-Kahf. Ces versets sont porteurs d'une lumière qu'on n'imagine pas. On le lit tous les jumas, on fait vite pour compléter. Alhamdulillah, on complète pour obtenir les récompenses. C'est une bonne chose. Mais si on prenait un peu de temps pour analyser la puissance et la profondeur et les asbab nuzul, l'histoire de révélation de cette surah, on réalise, et savants expliquent. Ça, on a déjà dit dans Shahat al-Zahra, on ne va pas répéter, sinon on ne commence pas le programme. Mais ces versets, c'est de la lumière. Et ça, c'est une rahma d'Allah. Comme on avait vu au départ, le Coran, c'est une rahma pour le croyant. Rahma qu'Allah n'a pas accordé aux Yahoud et aux Nasara. Ils ont eu le Taurat et le Injil, mais le Taurat et l'Injil avaient été confiés aux savants. Imaginez que le Coran ait été confié à nos savants. Ça aurait été la catastrophe, avec les divergences. Ceux qui vont à droite, ceux qui vont à gauche, ceux qui se déclarent kafir, fasir, bid'a, et ainsi de suite, dans le Jahannam. Il y en a qui choisissent même les portes du Jahannam. Lui, c'est la porte 1, toi, c'est la porte 2, toi, la porte 3, toi, la porte 4. Il y en a qui passent leur temps à chercher les défauts des autres, à déclarer les autres à la perdition. Bref, heureusement, le Coran n'a pas été confié à nos savants. Parce que sinon, après l'époque d'Atba' et Tabi'in, ça aurait été déjà compliqué. Je ne sais pas s'il y en a qui étaient présents sur Atul Jum'a. On a expliqué un petit peu l'histoire des Khawarij. On a raté. Je suis désolé, on n'a pas réussi. Parce que le temps de décoller était déjà moins 10, il restait 5 minutes. Et parler des Khawarij, c'est essentiel. À l'époque où on vit, avec ce qui se passe en France, en Belgique et ailleurs, le mu'min qui ne connaît pas l'histoire des Khawarij, il n'arrive pas à comprendre qu'est-ce qui est en train de se passer dans le monde musulman de notre époque. Donc, à ces époques où il y a eu l'apparition des Khawarij, des Rawafid, des Qadariyah, des Jabariyah, des Mu'tazila, de toutes ces sectes, jusqu'au DNA les Batiniyah qu'on retrouve bien répandus dans Musta'an. Mais imaginez que le Coran devait être protégé par les hommes. Ça aurait été fané, perdu. Les hommes n'ont pas été capables de protéger la pierre noire. Pendant le Daoula Fatimiyah, l'empire, je pense qu'on dit Fatimide, la pierre noire a été volée. Hajj al-Aswad a été volée, a été amenée dans... Je ne me rappelle plus le nom de la ville où il y avait les souverains ou les rois de cet empire-là. Et pendant longtemps, la pierre noire n'était plus, le Hajj al-Aswad n'était plus au niveau de la Kaaba. Les hommes n'ont pas été capables de protéger le Hajj al-Aswad. Parce que Allah n'a pas pris garantie pour la pierre noire. Mais le Coran, c'est sous la protection d'Allah Azza wa Jal. C'est pour ça qu'à la fin des temps, il est repris par Allah. Donc, on essaie de revenir avec le sujet. Une relation permanente avec le Coran, c'est la solution pour les fitanes, pour les péchés, pour nos jeunes également, qui sont dans des situations difficiles. Contre les fitnas également, contre les péchés, contre l'appel vers la débauche, contre tout ce que nous voyons qui nous perturbe. Rassam nous a dit que la solution, c'est de le Coran. Imagine celui qui mémorise le Coran, mais qui n'a jamais pris le temps de le lire dans une autre langue que la langue arabe. Qui n'a jamais réalisé, c'est quelqu'un qui porte un trésor, mais qui ne réalise pas quel trésor il est en train de porter. C'est comme si qu'il a dans un sac à dos, je ne sais pas combien de lingots d'or, ça vaut 10 000, je dis n'importe quoi, 10 millions d'euros, et il ne sait pas. Et il continue à travailler pour avoir 900 euros par mois, il n'imagine pas qu'est-ce qu'il a avec lui. Métaphore, d'accord? Qu'on réalise que celui qui a le Coran lui-même, pas forcément celui qui connaît tout le Coran par cœur, vous connaissez, on connaît Yassine, Al-Kahf, Tabarak, Al-Ladhi, Al-Waqi'a, ainsi de suite. Prenons un peu de temps, jour après jour, découvrir le Coran. On ne deviendra jamais Mufassir, non. Même ceux qui étudient ne deviennent pas Mufassir. Les Mufassirines, c'est fini leur époque. C'est Ibn Kathir, c'est Qurtubi, c'est terminé. Plus personne n'aura la même compréhension de la religion, parce que plus personne n'aura la même piété que ces gens. La piété, elle diminue. La dévotion diminue jusqu'à la fin des temps. D'accord? Mais que chacun fasse l'effort d'avoir une relation régulière avec le Coran. Et le troisième point, al-istima'u li-qira'ati al-Qur'an. Ça, on est d'accord avec ça. Écouter le Coran. Là, je suis d'accord. Amenez-moi un qari d'Égypte ou de de Navarre ou de je ne sais pas quel d'Alsace, de la Lorraine, là je suis entièrement d'accord. Là je suis ok, je suis présent à la Masjid des Plaines. Là on va crier Takbir, Allah Akbar, Mashallah, Yachar, et ainsi de suite. Et on caricature, le lendemain il n'y a plus personne pour la salat de Fajr. Il y a un problème. Quand on dit istima' li qira'atul Qur'an, c'est par rapport au verset wa idha quri'a al-Qur'an, vous vous rappelez, fastami'u lahu wa ansitu. Il y a deux termes, fastami'u et wa ansitu. Prêtez une oreille. Prêtez, comme on avait écrit ça, c'est traduction Qur'an, on doit faire attention. Prêtez-lui l'oreille attentivement et observez le silence. Il y a deux points, il y a le fait d'écouter, là-dessus on est ok. On écoute bien, on parle pas. Mais l'autre partie, l'autre amr, l'autre ordre du Qur'an, c'est une écoute attentive, bihudur al-qalbi, avec un cœur présent, wa tadabbur, avec méditation sur les versets. Mais après, bien sûr, cela nécessite certaines approches de la langue arabe, mais il faudrait bien qu'un jour on se bouge. Il faut bien qu'un jour on essaie d'avancer. Je me demande comment est-ce qu'une personne peut garder cette distance avec la langue du Coran. Vous savez, il y a certains savants qui disent que c'est wajib. On ne va pas vers ce genre d'avis parce que ça choquerait plus d'un, mais vous savez, entre lire un verset et le comprendre par le Coran, par l'arabe, et le lire en français, il y a un décalage. Il y a un décalage. Parce que cette langue, c'est une langue remplie de nour. Elle a été choisie par Allah pour être la langue du Coran et la langue du paradis. Donc on va dire ça, c'est une autre étape, c'est un autre niveau. Mais dans un premier temps, si déjà on peut forger cette relation avec le Coran, ça nous permettrait d'avoir une dévotion, une concentration. Commençons par cibler les versets qu'on lit nous-mêmes dans nos prières régulièrement, et d'étudier la tafsir avec pour objectif que lorsque je vais lire ces versets dans la salat ou dans la prière de la nuit, j'ai une concentration, une dévotion. Je vous donne un exemple basique, d'accord ? Celui qui, dans la prière de la nuit, je parle de la personne qui ne mémorise pas le Coran, mais il veut lire quand même des versets un peu longs. Il va lire Ayatul Kursi, par exemple. Il va lire Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, les derniers versets d'Al-Baqara. Il va lire Tabarakalladhi, il va lire Yassin. C'est déjà un bon début. Dans ce cas, on essaie de voir un petit peu le tafsir de ces versets, afin que, lorsque je vais les lire dans la prière de la nuit, Masha'Allah, ça va être un autre niveau. Qu'Allah nous accepte. Donc ça, c'était le troisième point. Quatrième point, et là, on commence un petit peu avec ce qu'on avait prévu ce soir. Comme on l'avait dit en introduction, ce n'est pas juste demander à Allah d'avoir pitié de nous. Il faut que les actions du quotidien soient en accord avec cette demande de Rahma. Parce que comme on l'a dit, on peut demander, et ensuite vivre comme monsieur tout le monde, monsieur qui n'a pas la foi, ben assurément, ça ne va pas aller. Ce n'est pas uniquement la demande qui nous permettra d'avoir la Rahma d'Allah, il faut qu'il y ait la demande, mais il faut qu'il y ait également les actions. Et, comme on l'a dit, on ne peut pas passer à côté des priorités, et les priorités, ce sont les piliers de l'islam, comme notre Rabb nous dit dans le Coran, « وَاقِيمُ الصَّلَاةَ وَآتُ الزَّكَاةَ وَطِعُ الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ » Verset 56 de la sourate An-Nur, « Accomplissez la salat, quittez la zakat, et obéissez aux messagers, afin que vous ayez la miséricorde. » لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. C'est-à-dire que pour obtenir la rahmat d'Allah, cela passe obligatoirement par l'accomplissement de la salat. Cela passe obligatoirement par le fait de s'acquitter de l'aumône de la zakat et obéir au prophète. وَطِعُ الرَّسُولَ. Mettre la sunnah en application de notre vie. Ça veut dire que pour obtenir la rahmat d'Allah, il faut une pratique complète du dîn. Là, on obtient la clémence d'Allah Azza wa Jal. Et Ibn Kathir, dans le tafsir d'un des versets, on avait expliqué l'importance des piliers pour notre propre correction. On avait dit ça vendredi au Latanier, le tazkiyatun nafs. On parle souvent de tazkiyat, purification intérieure. La purification intérieure par excellence, elle se trouve dans les piliers. Pratiquons les piliers correctement, il y aura cette purification intérieure. Lorsque tu pries, contrôle des yeux, contrôle de ce qu'on écoute, contrôle des paroles, contrôle du chaque geste, le gestuel est contrôlé, contrôle du cœur, soumission totale à la dévotion. Il y a des fois, on essaie de penser à autre chose, on se reconcentre. Certains disent que, est-ce que Paris va remonter deux buts ? Dis non, on reste concentré. Qu'est-ce que l'imam a lu ce soir des Andrakats ? Nabil, arrive en retard ?
Non.
Hein ? Tu pensais à quoi ? Comment remonter deux buts ? Inch'Allah, ils vont perdre de toute façon. Donc, il n'y aura plus de fitna pour essayer de regarder jusqu'à tard. Wadduha, deuxième raka. Donc, dans la prière, il y a une présence. On avait parlé de hudur al-qalb, présence du cœur, dévotion. Ben, cette dévotion-là, on essaie de la développer au maximum de la prière. Il y a que tu fais en sorte que ton corps, depuis la tête jusqu'au pied, jusqu'à l'intérieur, tout est dévoué pour Allah Azza wa Jal. Quand tu donnes la zakat, c'est facile de donner l'argent, Rachid, jeune commerçant. Mashallah, ça c'est un homme pieux, je ne savais pas qu'il y avait autant de pieux au mètre carré, mashallah. Les savants disent que quand tu donnes la zakat, c'est également une madrasa de tazkiyah, une purification contre l'avarice, shuh. L'avarice, le cœur qui, hubbun al-mal, hubban comment ? Jamma. L'homme est attaché au bien. Et quand il donne, il, comme on crée l'habitude déjà, il casse son nafs. Il va lutter contre l'ego. Il va lutter contre ses passions, contre les choses qui lui sont chères pour Allah. Et ça, c'est le sacrifice qu'Allah attend de nous. Tu as 10 euros en poche. Tu as 10 euros en poche, tu aimerais bien acheter telle chose. Le frère Mohamed, venant de métropole, en sortant de la masjid, il a 10 euros, il veut quoi ? Il veut 1 kilo de longani, il veut des mangues José, il veut des ananas Victoria, et ainsi de suite. Donc il a déjà prévu ce soir, il aura tel truc. Tu vois quelqu'un qui est une situation difficile, tu te dis que ce serait bien de faire un geste pour Allah. Le cœur, il te dit non, il y a madame, il y a les enfants, il y a la umma qui est là-bas, on est responsable et tout. Il pense au hadith, tu es responsable de ta famille. Tu dis que non, mais la sadaqa, on le donne lillah, pour Allah. C'est-à-dire, il y a un effort à faire sur soi, il y a une cassure. Cette cassure-là, ça c'est un bon signe. Si tu as réussi à casser ce qu'il y a dedans, c'est que tu es en train de construire autre chose. Si tu réussis à casser ce qu'il y a dedans, c'est ton nafs que tu es en train de casser avec un petit marteau là. Et tu es en train de construire, tu affaiblis ton nafs, tu renforces ton iman. Dans la zakat, il y a une purification intérieure. Il arrive les alik dans le hajj. Quand les gens sont en état de sacralisation des haram, l'égalité totale, il n'y a plus de riches, il n'y a plus de pauvres, il n'y a plus. En ihram, on ne distingue pas le Qatari du Bengali. C'est pas méchant ce que je dis, hein. On ne distingue pas celui qui a un portefeuille gigantesque de celui qui aimerait avoir ne serait-ce un portefeuille même vide. Voilà, cheikh. Ça, c'est al-adl, l'égalité totale entre les gens, l'humilité pour Allah. On est tous égaux devant Allah, habillés de la même façon. On lit la même talbiya, on se déplace ensemble. Il n'y a pas le prince et le roi, ils vont à Arafat avant les gens. Non! C'est en même temps. Le wukuf, il commence à telle heure, il se termine à telle heure. Il n'y a aucune exception pour quiconque. Ça, c'est une des hikmas du hajj, l'égalité entre les gens. Bref, dans tous les piliers de l'islam, il y a une purification intérieure. Donc, obtenir la rahmat d'Allah, oui, je fais des doigts, oui, mais je dois absolument mettre en application les ordres d'Allah, à commencer par les premiers piliers, salat, le mon, et wa'ati'u rasoul, l'obéissance au prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans tout ce qu'il a, dans tout ce qu'il nous a enseigné. Qui me rappelle le verset ? Ce que votre prophète vous a apporté, suivez. Qui a le verset en arabe ? وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُ. Révision sont prêts là. وَتَرَوِيْحْ مَا شَاءَ اللَّهُ. Se connaître en ce sens, ce que le prophète vous a accordé, prenez-le. Et quand il vous a dit non, traduction approximative, ce qui vous a interdit, alors éloignez-vous-en, ne le faites pas. Donc tout ce que le prophète nous a enseigné, on essaie de mettre les sunnan en pratique. Ça, c'est une porte ouverte pour la rahmat d'Allah. Le mu'min qui réalise que la prière est un moyen pour obtenir la clémence d'Allah. Est-ce que, et ça c'est le croyant qui est en phase d'évolution spirituelle, est-ce que cette personne pourrait se dire que Ramadan je vais commencer à prier et après Eid je ne prie plus jusqu'au prochain Ramadan? Ce genre de comportement malheureux, c'est le résultat, plutôt les conséquences de al-jahl, de l'ignorance totale sur les usus, les bases de la religion. On s'est concentré sur ce qui est apparent, extérieur, la belle mosquée bien illuminée, bien éclairée, les a'immas qui lisent bien pour la salat al-tarawih, qui doivent lire bien, donc qui doivent lire très vite pour qu'on puisse rentrer à la maison très tôt et transiter éventuellement par LGM, boire un milkshake, même si on va parler ensuite 45 minutes et ensuite rentrer chez nous. Mais hamshay, plus important, c'est que l'imam n'est pas pris plus que 98 secondes par rakat, ça c'est le plus important. Bref, ce genre de comportement, c'est les conséquences d'un vide spirituel. Il y a une apparence spirituelle, la pratique est là, mais intérieurement c'est vide. Quand le cœur n'est pas attaché avec le Coran, il ne trouve naturellement aucun attachement ferme, sincère, istiqama, avec continuité dans les bonnes œuvres. On veut développer la sincérité, on veut développer la dévotion, on veut développer le istiqama, trois qualités essentielles pour une bonne action. Cela transite par une compréhension, une approche du Coran et non pas une pratique qui reste superficielle. Autre action, et c'est d'avancer, Khamisan al-Istighfar. On veut obtenir la clémence d'Allah, on demande régulièrement pardon pour nos péchés. Comme on l'avait dit en introduction, quelqu'un qui demande à Allah pardon, ya Allah, aie pitié de moi, accorde-moi ta miséricorde, ta clémence, très bien. Qui prie, mashallah, très bien. Qui donne le monde comme il faut, très bien. Mais qui, dans la vie de tous les jours, cumule les péchés. Du matin jusqu'au soir, il n'a aucun contrôle ni sur son organe, ni sur ses oreilles, ni sur ses membres, ni sur ses paroles, voilà, shay. Et la personne de péché en permanence. Est-ce que c'est quelqu'un qui obtiendra la clémence d'Allah? Et puis Allah est capable de tout, de pardonner tout le monde. Là-dessus, on n'a pas le droit de se prononcer. Mais les actions qui sont mises en avant de le Coran et mises en avant de les hadiths qu'on va essayer de voir par la suite, nous montrent bien que voilà le cheminement pour obtenir la clémence d'Allah. Laoula tastaghfirun Allah la'allakum turhamun, verset 46 de la sourate An-Naml. Il dit, je ne sais pas si c'est la passée, c'était Younus alayhi salam, j'ai un doute. Non, c'était Saleh alayhi salam qui avait dit à son peuple, oh mon peuple, pourquoi cherchez-vous à hâter le mal plutôt que le bien? Si seulement, voilà le verset, si seulement vous demandiez pardon à Allah, peut-être vous serait-il fait miséricorde. Pas une bonne traduction ça. Si vous demandiez pardon à Allah, peut-être qu'Allah aurait pitié de vous. Allah aurait envoyé sa rahma, sa clémence sur vous. Les savants disent, à la lumière de ce verset, le mu'min qui recherche la clémence d'Allah doit demander istighfar en permanence, au minimum 100 fois par jour. On le répète très souvent ces derniers temps, qu'Allah donne la possibilité de le mettre en pratique avant de dormir, avant de compléter une journée. On doit vérifier qu'on ait demandé au moins 70 voire 100 fois istighfar par jour. Ça, c'est essentiel. Jamais se coucher sans avoir demandé ce quota de istighfar qu'un Nabi sallallahu alayhi wa sallam faisait. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait jamais de péché. Avant même qu'il ne devienne Nabi prophète, il était déjà parfait. C'était un enfant parfait. C'était un bébé parfait. C'était un enfant parfait. C'était un adolescent parfait. C'était un jeune parfait, alayhi salatu wassalam. C'était un adulte parfait. Il est devenu prophète, il était parfait. C'était l'époux parfait. C'était le père de famille parfait. C'était le amir exemplaire et parfait. Jamais commis d'erreur. Malgré ça, le prophète ne passait pas une journée sans demander dans certaines versions 70 ou alors 100 fois istighfar par jour. À nous de le faire pour obtenir la grâce de nos péchés et également obtenir la clémence d'Allah. Il y avait une petite vidéo sur WhatsApp qui circulait, un cher qui expliquait, malheureusement ça n'avait pas été sous-titré en français, il disait des paroles mais d'une simplicité, un enfant pourrait le dire, mais il disait avec tellement de cœur qu'en l'écoutant on se dit que waouh, c'est la vérité, alors qu'il n'a rien dit de spécial. Il n'a pas amené un verset du Coran ni un hadith, mais il a dit vraiment ce qu'il avait sur le cœur et qu'il mettait lui-même certainement en pratique, ce qui fait que ça a l'effet d'une... Il ne faut pas dire à bombe. Comment, qu'est-ce qu'on peut dire? Ça a l'effet d'une une claque. Ça booste spirituellement. Immédiatement, on écoute ses parents dire que subhanallah, ça c'est haq, c'est la vérité. Il expliquait avec beaucoup de cœur et beaucoup d'émotion, « Ya akhil muslim, oh mon frère en islam ou ma soeur en islam, fais en sorte de meubler ton temps par le istighfar. Ne laisse pas passer une seconde de ta vie en regardant à droite ou à gauche, en écoutant n'importe quoi. Fais en sorte que les moments de silence ne soient en fait jamais vraiment des moments de silence. Soit tu fais istighfar dans ton cœur, soit tu le fais avec la bouche. En faisant en sorte que les gens ne t'entendent pas, il n'y a pas de mal dedans, mais fais en sorte qu'à chaque instant, dans les embouteillages, en montant dans le bus, en attendant dans le métro, dans que tu fais la queue au supermarché, bref, en salle d'attente chez le docteur, demande istighfar, demande pardon à Allah. Parce que quand on demande pardon, sans le moindre doute, Allah Rabbul Izzah accepte le pardon. Et si on savait le poids d'un péché dans la balance, les conséquences d'un péché dans la balance, jour de Qiyama, on y'a amal mitkhala dharratin, mais également, bien sûr, et mitkhala dharra, c'est l'atome, un iota, c'est vraiment ce qu'il y a de plus petit. Il aura son pesant et ses conséquences dans la balance. Et si on se dit que si j'avais demandé istighfar régulièrement, subhanallah, comment est-ce qu'on aurait été soulagé de ses péchés et cette étape de mizan serait facilitée. Cette étape de remise délivrée serait facilitée. Cette étape de présentation devant le tribunal d'Allah serait facilité. Le istighfar, ikhwani fillah, c'est vraiment l'action passive ou active du musulman. Passive, si on le fait dans notre cœur, mais faisons en sorte de le faire le plus possible régulièrement. Et les savants disent également que le istighfar dalilun ala istislamika lillah. C'est une preuve que tu te soumets à Allah. C'est une preuve que tu penses à Allah en permanence. C'est une preuve que tu as la conviction qu'Allah entend même ce qu'il y a dans ton cœur. C'est une preuve que tu as espoir en Allah. C'est une preuve que tu as honte de tes péchés. C'est une preuve que tu as conscience que tu ne peux pas te présenter un jour devant Allah avec ses péchés. Ça, c'est des preuves de iman, tout ça. Par opposition à l'insouciance. L'homme qui est de le rafla, il ne pense pas qu'un jour il retourne auprès d'Allah. L'homme qui est de le rafla, il n'a pas honte de cumuler les péchés, de désobéir à Allah. Et bien, ça, c'est le comportement contre, c'est le contre-exemple. Alors que la personne qui fait régulièrement istighfar, c'est une preuve que le iman est vraiment entré, l'iman, la foi est ancrée dans son cœur. Ça, c'était la cinquième action. On fait des niyat, inshallah. Le plus important, c'est de ressortir avec des résolutions. On va lever la main, inshallah, qu'Allah accepte cet effort, qui fait l'intention à partir de cet instant, pour ceux qui le faisaient déjà, de lire au moins 70 fois ou 100 fois istighfar tous les jours. Qu'on ne se couche pas sans faire Allahumma amin wa faqna ya Rabb. Qu'Allah soit témoin, les anges ensuite sont témoins, et qu'Allah donne tawfiq de mettre cette action en application avec deux objectifs. Un, le pardon de nos péchés, et deuxième objectif, la'allakum turhamun, pour obtenir la clémence d'Allah. Une des preuves, une des manifestations de la clémence d'Allah, c'est quand il t'accorde son maghfira, son pardon. Hada. Sixième action, pour obtenir la clémence d'Allah, ad-du'a. Ça, c'est ce qu'on avait dit en premier. Demandez du'a. Parmi ces du'a, on a le du'a de la sourate Ali Imran, verset 8, Rabbana la tuzigh qulubana. Complétez. Ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal Wahhab. Je cherche la traduction. Je ne l'ai pas. Je l'ai. Seigneur, ne laisse pas dévier nos cœurs après que tu nous aies guidés. Ça, c'est un dua essentiel. Ce dua va dans le sens de quel verset? Masha'Allah, j'avais prévu des récompenses. Alhamdulillah, je fais des économies. Il l'a trouvé. Ce dua va dans le sens d'Ihdina Sirat al-Mustaqim. Guide-nous vers le droit chemin. Vous voyez, on écoute une deuxième fois. Seigneur, Ya Allah, ne laisse pas dévier nos cœurs après que tu nous aies guidés. N'est-ce pas là la priorité des priorités? Al-Maut al-Iman. Mourir avec la foi. Qu'on soit né musulman ou qu'on soit entré dans la religion, retourné vers la religion du Haqq durant notre vie, le plus important, c'est de quitter ce monde avec le Haqq. Et ça, personne n'a la garantie. Est-ce qu'on est conscient de ça? Est-ce qu'on est conscient du fait que personne n'a la promesse ni une quelconque garantie de mourir avec shahada? D'où l'importance de le demander régulièrement, d'où l'importance d'être ferme de nos actions, d'où l'importance de demander à chaque fois, et on le fait. Et Allah nous a accordé ce verset, sachant qu'on va le répéter plusieurs fois, Ihdina Sirat al-Mustaqim. Du coup, Allah va accepter. Parce que vous connaissez qu'Al-Fatiha, c'est une conversation entre le Moussali, celui qui prie, et Allah Azza wa Jal. Donc il aura l'acceptation à chaque fois. Donc ça aussi, c'est une rahma d'Allah qu'il nous a accordé des versets qui nous permet de rester, Inch'Allah, dans le droit chemin. Donc ce verset va de ce sens. Et accorde-nous ta miséricorde. Après avoir demandé à Allah la guider et la fermeté de la guider jusqu'à la mort, et accorde-nous ta miséricorde, c'est toi, certes le grand donateur, le seul qui peut nous accorder la rahma, c'est Allah Azza wa Jal. On peut obtenir des choses de la part des gens. Hadith de Ibn Abbas, ça c'est des bases. Si l'humanité se réunissait pour t'apporter quelque chose, sache qu'il ne t'apporterait rien de plus que ce qui ne t'a déjà été prédestiné. C'est-à-dire que même les riches, les millionnaires, les politiciens, les hommes d'État, toutes ces personnes, ils veulent te donner plein de choses. Ils veulent te protéger, t'apporter. Mais ce qu'ils vont t'apporter, là, c'est ce qu'Allah avait déjà écrit pour toi. Eux, ce sont des asbabs, des intermédiaires. Ce qui nous importe, c'est la clémence de notre Seigneur et pas la bonté des créatures d'Allah. Hada. Donc, pensons à demander ce dua régulièrement. Hada. Et les savants disent que la plus grande bénédiction, c'est de voir ce dua accepté. Il y a une citation qui est très bien de As-Sa'di, sans faire de publicité. Il y a un excellent tafsir, on avait parlé une ou deux fois, Taysirul Karim Rahman de As-Sa'di Rahimahullah, qui est un tafsir beaucoup plus facile à comprendre que Ibn Kathir. Si je ne me trompe pas, un des seuls tafsirs sérieux traduits en français, c'est Ibn Kathir. Mais il faut suivre, parce qu'on a d'autres versets qui commentent les versets. Donc à la base, il faut qu'on connaisse ces autres versets. Donc on est un petit peu pris. Il commente par le biais de hadith. Donc ça aussi, il faut comprendre les hadiths. Et après, il y a les israéliyats. Là, il faut faire la part des choses. Par contre, As-Sa'di, il est un peu plus... Enfin, pas contemporain, contemporain, mais on pourrait le dire. Et c'est un tafsir plus facile. J'ai entendu qu'il a été traduit en français. Est-ce que tu connais ce tafsir? Mais il est grand temps de commander, s'il vous plaît, des livres intéressants, parce que c'est un tafsir accessible à tous. Quand nous-mêmes, on a besoin d'un tafsir rapide, pas d'un tafsir détaillé, on veut un tafsir rapide pour un verset sur lequel on a un doute, parce qu'il ne faut jamais avancer aveuglement dans un verset. As-Sa'di, c'est vraiment la solution. Mon avis, c'est si quelqu'un peut l'avoir, et faire sa lecture du Coran avec commentaire. Ibn Kathir, on risque de prendre beaucoup de temps. Un verset, il y aura 4 pages de commentaires. Donc, on ne va pas s'en sortir. Mais avec As-Sa'di, c'est vraiment synthétique, mais en même temps, Shamil, et il y a vraiment tout ce qu'il faut. Donc, pensons à trouver ce livre et essayer de le lire, Inch'Allah. Donc, il y avait une citation de As-Sa'di. Il parlait de Rahma Azima. Rahmatan Azima. Ah oui, il dit que c'est quoi la Rahma qu'on demande à Allah? On demande à Allah une clémence magnifique. Tuwaffiquna biha lil khayrat. Cette clémence, où Allah accorde-nous une clémence venant de toi, et cette clémence qui nous permet, qui nous ouvre les portes des bonnes œuvres. La plus grande des clémences, c'est quand Allah a une pitié pour toi et il te donne la possibilité de l'obéir. Wa ta'simuna biha min al-munkarat. Et cette clémence nous protège des péchés, nous permet de rester éloignés des péchés. Parce que ya Allah, innaka wasi'ul 'ataya, c'est toi seul qui peux donner autant de choses. Donc ça dit, cette clémence qu'on demande à Allah Azza wa Jalla, c'est une rahma qui nous permet d'aller vers les bonnes œuvres, d'être accepté pour les bonnes actions et d'être éloigné totalement de tout ce qui est haram. Les savants disent également, on va compléter avec ça, on conclut. Les savants disent également, le mu'min qui demande du'a régulièrement. Ça, c'est très important. Il y a plein de gens qui prient et après la prière, ils s'en vont. Il faudrait y consacrer un peu de temps au du'a, aux invocations. Individuelles, bien sûr. On demande à Allah directement. Et parce que le prophète alayhi salat wa salam dit dans le hadith, ad-du'a hu al-ibad. L'invocation, c'est la bonne action. On pourrait rajouter par excellence. Les savants disent que la bonne action, la définition de le amalun salih, c'est at-tazallul wal-khudu' lillah. La soumission totale à Allah Azza wa Jal. Et quand tu demandes du'a, tu resitues ta position de makhlouq, faible, muhtaj, où tu as besoin d'Allah, où tu ne peux strictement rien. Et tu réalises la position, enfin, si on peut appeler ça, subhanallah, le uluwullah, la grandeur d'Allah Azza wa Jal, ala kulli shayin qadir, ala kulli shayin wakil, innama amruhu idha arada shayin an yaqula lahu, Allah l'ordonne, kun fayakun. Et tu t'en remets à lui. Les savants disent que c'est une manifestation de iman bil ghaib, de foi en l'invisible. Tu es dans un problème concret, tu as un problème de santé. Allah protège. Sur tes analyses, c'est écrit telle chose. C'est-à-dire que dans ton sang, il y a ce virus, il y a cette bactérie, ou il y a ce problème, ou quelle que soit la nature du problème. Et tu sais pertinemment que tu vas demander des doigts, ça reste, ce sont des paroles. Tu t'adresses à ton Créateur que tu n'as jamais vu, que tu n'as jamais entendu. Mais tu es persuadé que lui peut tout changer. Parce que c'est lui qui donne la maladie, mais c'est lui également qui accorde la santé. Donc quand on demande du'a, c'est vraiment dalil, une preuve de iman bil ghaib, une preuve de foi en l'invisible, une preuve de confiance en Allah Azza wa Jal. Lorsque, subhanallah, notre prophète alayhi salatu wa salam, lors de la veille de la bataille de Badr, notre prophète alayhi salatu wa salam avait passé la nuit à faire du'a. Il faisait tellement du'a à demander à Allah son aide et la protection contre les ennemis, la protection pour les mu'mines, pour les croyants. Il demandait tellement, il a passé sa nuit dans les invocations jusqu'au lendemain. Et lorsque les sahabes ont été voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam levait les mains et demandait tellement du'a que son manteau, son rida, était tombé. Tellement il demandait, il ne s'était même pas rendu compte. Et là, Abu Bakr dit, « Ya Rasulallah, c'est suffisant. Ton Seigneur t'a entendu. » Ça montre comment le prophète était attaché au du'a. 313 contre plus de 900. Sur le papier, on pourrait dire, il est impossible de gagner contre 900. Les mécréants, les Quraysh, ils voulaient en finir avec le prophète alayhi salatu wassalam et l'ensemble des sahaba. Ils étaient armés, ils avaient des armures, ils avaient boucliers. Bref, c'était une véritable armée. Les sahaba n'avaient aucune intention de se battre. Ils n'étaient même pas préparés à ça. Mais le prophète sallam, il sait qu'il s'en remet à Allah et l'aide vient d'Allah. Et quelle nusra d'Allah! Allah envoyait les malaïkas du ciel pour venir en aide au prophète sallallahu alayhi wa sallam et aux croyants, istijaban, en réponse, en exauçant les invocations de Al-Habib, de le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque Moussa alayhi sallam était face à la mer avec l'armée de Pharaon, on connaît l'histoire. Également, lorsque Moussa alayhi sallam est revenu de sa rencontre avec Allah et que son peuple avait suivi, qui ça ? À Samiri, le Samaritain. قال رب اغفر لي واخي وادخلنا في رحمتك وانت ارحم الراحمين. Il a demandé du'a à Allah. À travers le vécu des Anbiya, vous savez, les prophètes alayhi salatu wa salam, dans leur vie, il y avait quantité d'épreuves et de difficultés, de situations de mise à l'épreuve. Et dans toutes ces situations, ils s'en sont remis à Allah Azza wa Jal. Il y a tellement de choses, subhanallah. Quelque chose que j'aurais aimé vous montrer. Si on retrouve, subhanallah, on avait reçu ça par WhatsApp, des doigts de certains prophètes, alayhi salatu wassalam. J'ai trouvé ça juste magnifique et on va conclure, on a terminé le programme. Subhanallah, où cette personne avait montré un petit peu, si on retrouve, inshallah, comment est-ce que dans des situations extrêmes, ces prophètes s'en sont remis totalement à Allah. On les a trouvés, inshallah. Commence par Zakaria. Dommage, on n'a pas de. Un jour viendra où il y aura des portables avec vidéoprojection. Au Japon, il y a déjà, non ? D'accord, il y a plein de choses à faire. L'histoire de le prophète Zakaria alayhi salam. Limadha tamanna al-dhurriya wa qad balaghahu al-kibr wa amratuhu aqir. Pourquoi est-ce que Zakaria, qu'est-ce qui fait que Zakaria alayhi salam continuait à espérer avoir une descendance alors qu'il était déjà âgé et que son épouse également était âgée et qu'elle était stérile. C'est-à-dire les asbab sont fermés. La femme ne peut pas avoir d'enfant, elle a atteint un âge et lui-même il est âgé. Pourquoi est-ce qu'il continue à faire du'a ? Li'annahu ahsana dhann billah. Il avait une pensée positive en son Seigneur et espoir en Allah. Et qu'est-ce qu'il a dit ? Hunalika da'a Zakariya rabba. قال ربي هب لي من لدنك ذريه طيبه انك il faut pas faire de gestes qu'on parle d'Allah انك سميع الدعاء. C'est toi qui entends les doigts. Il a demandé une descendance pieuse alors que médicalement guillemets c'était impossible, mais c'est cette confiance en Allah et le fait de demander toujours à Allah عز وجل. Nuh alayhi salam limadha istamarra fi sun'i as-safina wa sabara. Et pourquoi est-ce que Nuh alayhi salam a continué à construire l'arche alors que c'était dans un endroit où il n'y avait pas d'eau, il n'y avait pas de fleuve, il n'y avait pas de mer, il n'y avait rien du tout, et que après combien d'années de prêche, plus de 950 années de prêche, les gens ne l'écoutaient pas parce qu'il avait une pensée positive, il avait espoir en Allah. وَيَصْنَعُ الْفُلْكُ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّنْ قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ. Les gens se moquaient de lui quand ils le voyaient construire l'arche. Mais il disait, قَالَ إِنْ تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُوا مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ. Il les mettait en garde. Parce qu'il savait que ce qu'il faisait, c'était avec l'aide d'Allah, ainsi de suite. Puis il y a pour notre prophète, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il y a Ayyub alayhi wa sallam avec ses 18 années de maladie. Personne, jusqu'à la fin des temps, ne développera une maladie comme celle qui a touché Nabiullah Ayyub alayhi wa sallam. لماذا صبر على مرضه ولم ييأس من الشفاء. Pourquoi est-ce qu'il est resté patient dans sa maladie? Vous rendez compte, 18 années de souffrance. Nous, 3 jours, l'antibiotique ne marche pas. On va voir le docteur, il dit non, je ne veux plus changer de molécule. L'amoxicilline, ce n'est pas bon, il faut passer à la sulfuroxine. Après, il dit non, je ne veux plus de zinate, je veux de l'augmentin. Après, je veux du tavanique. Après, je veux. Ça, c'est les chaînes d'antibiotiques. Il faut, on n'est pas patient. Au-delà de 3 jours, je veux être en parfaite santé, je veux être capable de courir un sprint, sauter et ainsi de suite. n'est pas patient dans les moments de maladie, qu'Allah nous protège de la maladie. Ayyub al-Islam est resté patient de cette maladie et il n'a jamais désespéré alors que sa maladie était terrible parce qu'il avait confiance en Allah azza wa jal. Pareil pour Ismaïl al-Islam, Maryam al-Islam, Ibrahim al-Islam, Younus al-Islam, Ummi Moussa, la maman de Moïse, Moussa al-Islam, il a réalisé d'alik min al-Anbiya alayhi mussalat wa salam. C'est une qualité des pieux, une qualité des proches d'Allah, que de ne jamais perdre espoir et toujours demander à Allah Azza wa Jalla. Qu'Allah nous accepte, nous donne la possibilité de développer ses qualités spirituelles et de mettre ses points en application dans notre vie, et que jour après jour, on apprend, on connaît notre Seigneur, et que l'amour d'Allah pénètre nos cœurs, et cela va rejaillir, Inch'Allah, sur nos bonnes œuvres. On a encore à peu près, je pense, 3 ou 4 durous, peut-être 4 durous sur ce sujet avant le mois béni de Ramadan. Donc comme c'est une semaine sur deux, qu'Allah Azza wa Jalla nous donne la possibilité, par le biais de ces durous et par tout ce qu'on va écouter, Inch'Allah, d'avoir un réel contact, une réelle connexion avec Allah Azza wa Jalla, qui transite par la parole d'Allah, et que le mois de Ramadan qui s'approche à grands pas, mais à pas effrayant, que ce mois de Ramadan qui s'approche, ce soit le plus beau Ramadan qu'on ait jamais vécu dans notre vie sur le plan spirituel. Allahumma amin wa ma tawfiq illa billah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan.